Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Bertie Bourdon, mais aussi Hélène Lefrançois, Margot Leridon, Rosalie Suc, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Julien Calvas. Nouvelle série donc consacrée au Parlement, les parlements à la renverse. Nous parlerons demain de l'Italie et des retournements d'alliances intempestifs qui pourraient devenir monnaie courante en Europe. Mercredi, nous regarderons les pistes possibles pour faire face à la crise de la représentativité. Jeudi, nous nous intéresserons à l'ONU, le Parlement du monde. Mais aujourd'hui, direction le Parlement britannique, la mère de tous les parlements, Westminster. Les fondements du parlementarisme à l'épreuve, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
If the House votes tonight...
Si la Chambre vote ce soir pour une élection générale anticipée, mon mandat en tant que président et en tant que député se terminera lorsque la législature de cette Chambre prendra fin.
We degrade this Parliament.
L'autorité de ce Parlement se dégrade à nos risques et périls.
I wish my successor in
Je souhaite à mon successeur à la présidence la meilleure fortune à défendre les droits des honorables membres de cette Chambre en tant qu'individu et pour la Chambre en tant qu'institution. En tant que président de cette Chambre des communes, je vous remercie.
Thank you.
Une longue standing ovation a suivi le discours de John Bercow lundi dernier à la Chambre des communes. Ces derniers mois, le speaker de la Chambre des communes est devenu une figure centrale de la vie politique britannique, rappelant l'importance, peut-être un peu oubliée, du Parlement dans le système politique britannique. John Bercow n'a eu de cesse d'œuvrer pour défendre la place de Westminster face aux différents gouvernements qui se sont succédés et à la menace d'un Brexit sans accord, qui d'ailleurs a été accusé de faire le jeu des opposants, de ses opposants, lorsque les membres de l'exécutif l'accusaient de jouer avec des instruments institutionnel pour contrecarrer leur agenda, lui invoquait les droits du Parlement, comme il l'a fait récemment lors de la décision de Boris Johnson de suspendre la session parlementaire pour une durée particulièrement longue et à un moment tellement décisif pour l'avenir du pays. En effet, la décision de Boris Johnson de suspendre ce Parlement jusqu'au 14 octobre ne laisse que très peu de temps pour entériner un accord d'ici le 31 octobre. Et dans ce contexte particulièrement tendu, sa suspension est aux yeux des opposants à Boris Johnson un coup d'État, une tentative de réduire au silence une partie du pouvoir. Alors cette décision de suspendre le Parlement est-elle légale, mais surtout est-elle en rupture avec l'esprit de la démocratie britannique? Quelle place Westminster tient-il dans l'histoire politique du pays? Et jusqu'où le Brexit met-il justement en question la nature même du système politique britannique? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. D'abord, ici avec nous en plateau, Thibaut Guilluy, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de droit public à l'Université de Lorraine et membre de l'IRENE étant
l'Institut de recherche sur l'évolution des nations et de l'État.
Voilà, c'est fait. Philippe Chassaigne est avec nous en duplex de Bordeaux. Bonjour Philippe Chassaigne.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Bordeaux-Montaigne, auteur entre autres de cet ouvrage « Histoire de l'Angleterre, des origines à nos jours » qui était paru chez Flammarion, et d'ailleurs on aura l'occasion d'en parler. Je vais commencer avec vous, Thibaut Guilluy, parce que vous êtes en face de moi, mais ne vous inquiétez pas, Philippe Chassaigne, votre tour viendra. Longue standing ovation, donc Thibaut Guilluy, après ce discours de John Bercow, lundi dernier à la Chambre des communes, avec, c'est vrai, une certaine émotion du speaker qui a annoncé qu'il quitterait de toute façon ses fonctions au plus tard le 31 octobre, expliquant la fierté qui avait été la sienne, défendre la place du Parlement, son poids dans le paysage politique. C'est aussi, disons-le, Thibaut Guilluy, une décision parfaitement pragmatique, puisqu'il se trouve que le Parti conservateur a décidé de lui opposer un candidat contre lui, ce qui par ailleurs est absolument pas dans la tradition, mais bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais c'est assez rare qu'un speaker soit autant mis en avant dans la vie politique britannique. D'habitude, il apparaît comme un personnage quasiment secondaire. Qu'est-ce que cette soudaine visibilité vous semble révéler de la crise politique et institutionnelle que traverse aujourd'hui la Grande-Bretagne ?
Alors, juste une petite précision tout de même sur la démission de John Bercow. Il est vrai qu'il a probablement subi quelques pressions et qu'effectivement le Parti conservateur a souhaité ou a laissé entendre qu'il lui opposerait quelqu'un, ce qui est tout à fait aux prochaines élections, ce qui est inédit. Ceci étant dit, il assure ses fonctions de speaker depuis 2009 maintenant, et effectivement, ça fait un 30 ans, il avait déjà émis l'idée de se retirer dès 2017. Donc il y a aussi des raisons personnelles qui ont fait que... Bon,
oui, ce qu'il a beaucoup mis en avant.
Voilà. Alors, la particularité de John Bercow est d'avoir un peu révolutionné cette fonction de speaker. Alors, j'exagère un petit peu, mais le speaker est une fonction très ancienne au sein du Parlement. C'était une fonction plus politique, plus politisée, en ce sens que donc le speaker intervenait ou était le membre d'un parti dans les premiers temps, puis à partir de la parlementarisation du régime britannique, c'est-à-dire essentiellement au 19e siècle, voilà, il a fallu développer une institution un peu particulière, et donc le speaker est devenu plus indépendant. Alors, la particularité de John Bercow n'est pas tant d'avoir, à mes yeux en tout cas, menacé ou rompu cette indépendance, il est d'avoir assuré ou d'avoir donné une voix, au fond, aux droits du Parlement, en opposant effectivement l'intérêt du Parlement à l'exécutif, au gouvernement, que ce soit face à Theresa May en mai-juin de cette année, ou aujourd'hui face aux tentatives un peu contestables de Boris Johnson.
Philippe Chassaigne, Thibaut Guilluy nous dit Bercow a révolutionné la fonction de speaker. Est-ce que vous seriez aussi sur cette ligne-là, sur cette idée-là ? Et puis sur précisément la question de la neutralité de ce speaker, on dit qu'il faut qu'il ait une forme de neutralité politique pour bien tenir ce rôle-là. D'abord, je ne sais pas si justement ceci est prévu dans la démocratie, le système britannique, sachant qu'on y reviendra, mais il n'y a pas, on le sait, de constitution réglée, codifiée, extrêmement précise. Mais cette idée que Bercow aurait révolutionné cette fonction de speaker, Philippe Chassaigne.
Ah oui, dans la mesure où auparavant le speaker avait quand même une certaine neutralité. Bon, avant d'être speaker, il appartient à un parti politique. Mais lorsqu'il devient président de la Chambre des communes, il laisse en quelque sorte sa couleur politique pour présider à l'ensemble à la totalité de l'Assemblée. Je dirais que pour le Brexit, le slogan des partisans du Leave, c'était « reprendre le contrôle »,« take back control ». En fait, ce que l'on voit, c'est que maintenant, c'est le Parlement qui lui reprend le contrôle, alors que depuis une trentaine d'années, depuis les mandats de Premier ministre de Margaret Thatcher notamment, on disait que le Parlement, enfin la Chambre des communes surtout, évoluait vers une sorte de chambre d'enregistrement des décisions du gouvernement. Et bien là, on voit que le Parlement veut reprendre le contrôle et exercer le rôle qui normalement doit être le sien, de contrôle de l'action du gouvernement. Et donc cette suspension extrêmement longue et sans réel précédent, même qu'on remonte effectivement au XVIIe siècle, donc du Parlement décidé par Boris Johnson, c'est quelque chose qui visait, qui visait manifestement à écarter le Parlement de ce rôle de contrôle.
Vous parleriez, vous, de scandale constitutionnel, j'utilise la formule à dessein, puisque c'est précisément ce qu'a dit John Bercow à propos de la suspension du Parlement. Philippe Chassaigne.
Oui, c'est une mesure qui, effectivement, était assez cavalière, c'est un scandale constitutionnel. Ce n'est pas techniquement anticonstitutionnel, d'autant plus que vous l'avez dit, il n'y a pas de constitution écrite, il y a simplement des pratiques parlementaires qui sont enracinées dans l'histoire et que l'usage a consacré. Mais effectivement, proroger, d'où mon lapsus, comme on dit en anglais, le Parlement aussi longtemps, ça ne s'était pas vu depuis au moins 1945.
Thibaut Guilluy, à ma connaissance. Sur la question de la légalité, pas de problème. En revanche, sur l'esprit, j'allais dire.
Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Philippe Chassaigne. Alors, la particularité de la Constitution britannique, c'est de s'arranger d'un subtil agencement de normes qui sont proprement juridiques et de choses qui sont plus politiques. En fait, au Royaume-Uni, on peut encore parler d'une certaine forme de moralité constitutionnelle, comme le faisaient les juristes au XIXe siècle. Il restait quelque chose de ça. Effectivement, légalement, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire du point de vue du droit strict de la prorogation. Alors évidemment, politiquement et donc constitutionnellement, il y a beaucoup plus à dire du fait de sa longueur et puis du fait des motifs invoqués. Alors si on peut rentrer dans le détail
plus
précis, si vous voulez, c'est pas en soi choquant de proroger le Parlement. Effectivement, la session parlementaire a été remarquablement longue. Effectivement, un nouveau gouvernement est arrivé.
Elle n'a pas réglé, entre parenthèses, la question du Brexit.
Ah non, donc
bien que longue.
Effectivement, mais un peu de la faute du Parlement aussi. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais voilà. Donc la session parlementaire est exceptionnellement longue et un nouveau gouvernement arrive. Alors c'est le motif officiel invoqué par Boris Johnson pour justifier cette prorogation. À savoir, il doit préparer son programme législatif, c'est-à-dire préparer ce qu'on appelle le discours de la reine, puisque la reine, au début de la session parlementaire, vient prononcer un discours qui est écrit donc par le gouvernement. Elle ne fait que prononcer ce discours. Ça, c'est le motif officiel, évidemment. Alors le problème, et c'est de toute façon tout le problème du Brexit, c'est un problème de calendrier, c'est-à-dire que l'horloge continue à tourner et effectivement prorogée pour une durée particulièrement longue, c'est-à-dire 3 semaines, dans le contexte actuel, ça pose évidemment beaucoup de problèmes.
Philippe Chassaigne, l'une des critiques formulées à l'égard de John Bercow, c'est de dire que, bien que membre du Parti conservateur, il a favorisé le camp des opposants au Brexit, et même peut-être en particulier, il a favorisé le Parti travailliste. Est-ce que ce reproche est justifié, selon vous, Philippe Chassaigne ?
À mon sens, c'est un reproche qui est tout à fait excessif, dans la mesure où on a bien vu qu'au sein même du Parti conservateur, les partisans du demeurer, les Remainers, ont agi de diverses façons, soit en rejoignant les libéraux-démocrates, soit en dénonçant leur appartenance au parti. C'est le groupe des 21, la semaine dernière. Et donc Bercow, qui par ailleurs a une trajectoire politique qui est assez intéressante, parce qu'en début de carrière, il est plutôt à la droite du Parti, enfin il est à la droite du Parti conservateur, et ensuite il évolue vers l'aile gauche du Parti, du même Parti conservateur. Donc ce qui compte pour lui avant tout, à mon sens, c'est l'intérêt national du pays. Il considère que son pays n'a rien à gagner d'une sortie sans accord, plus qu'une fidélité à un parti conservateur qui est même plus divisé, mais quand même fractionné sur la question du la question du Brexit.
Thibaut Guilluy, on a besoin d'un juriste, ça tombe bien, vous êtes là. Avant de suspendre la session, les parlementaires britanniques ont voté un texte dans lequel il est demandé à Boris Johnson de demander un report du Brexit à ses partenaires européens dans le cas où il ne parvenait pas à trouver un nouvel accord d'ici le 18 octobre. Jusqu'où ce texte, donc décidé par les parlementaires, contraint-il le Premier ministre, l'exécutif britannique? Est-ce que Boris Johnson va être obligé de demander un report?
Écoutez, alors là,
c'est un point qui est très débattu depuis quelques jours.
Oui, mais la réponse juridique me paraît assez simple. On peut même le dire de manière assez emphatique. Fort heureusement, le Royaume-Uni, c'est un gouvernement des lois et non des hommes. L'exécutif, le gouvernement est soumis au droit. Alors là, je pense que Philippe Chassaigne en parlerait mieux que moi, mais c'est toute l'histoire de la Constitution britannique qui montre cela. C'est une lutte un peu permanente, à partir en tout cas du XVIIe siècle, entre les pouvoirs de la couronne, donc de l'exécutif au sens large, donc sous ce qu'on appelle la prérogative royale, et puis les pouvoirs du Parlement. Or, le sens de cette histoire, sans tomber dans une historiographie Whig peut-être un peu biaisée, mais tout de même le sens de cette histoire, c'est que le Parlement, petit à petit, a rogné la prérogative royale, c'est-à-dire que en adoptant des lois contraignantes pour l'exécutif, elle l'a contraint. Donc on a ici, et c'est en ça que d'une certaine manière ce qui se passe aujourd'hui est assez historique, on a une nouvelle, au fond, une nouvelle intervention du Parlement pour limiter l'exercice du pouvoir exécutif.
Que se passe-t-il si Boris Johnson n'exécute pas ce texte-là? Parce que vous avez probablement lu évidemment la tribune de Dominic Grieve dans Le Guardian qui dit que ce que risque Boris Johnson, c'est tout simplement la prison.
Oui, tout à fait. On peut poursuivre effectivement le Premier ministre. Effectivement. Alors après, évidemment, il y a cet aspect strictement juridique. Il faut intégrer aussi dans le problème la personnalité de Boris Johnson, qui est pour le moins un peu exubérante. Va-t-il aller jusqu'à ne pas se soumettre à cette loi? Ça me paraît tout de même un peu compliqué. Alors après, à mes yeux, il est évident qu'il doit s'y soumettre.
S'il le fait, il ne tient pas à sa promesse. Il a dit plutôt mourir dans le fossé que d'aller demander un report du Brexit. C'est lui qui l'a dit.
Mais personne ne le force à rester au pouvoir, si vous voulez.
Absolument. Philippe Chassaigne.
Oui, mais ça, l'image du fossé, c'est assez drôle parce qu'elle était déjà utilisée en 1910 au moment de du grand débat politique outre-Manche.
Racontez-nous.
En 1910, donc le gouvernement à l'époque c'est un gouvernement libéral avec le soutien des travaillistes et comme la Chambre des communes donc est une majorité libérale travailliste alors que la Chambre des lords est très majoritairement conservateur, donc une loi est adoptée pour réduire les pouvoirs de la Chambre des lords et remplacer notamment son pouvoir de rejeter les lois par un veto suspensif de 2 ans. Et donc là il y a un grand débat politique et certains lords, donc qu'on parlait aujourd'hui la droite du parti conservateur, on les appelait les ditchers parce qu'ils étaient prêts aussi à mourir dans les fossés plutôt que de renoncer à leur pouvoir. Mmh. Bon, finalement tout s'est calmé parce que le roi George V était prêt à nommer tellement de lords libéraux que la majorité serait renversée et que l'ordre conservateur préférait rester entre eux plutôt que de voir arriver des nouveaux lords, passer par la savonnette à ville, hein, comme on aurait dit en France sous l'ancien régime. Bon voilà, donc les ditchers, aucun lord libéral n'est mort dans un fossé en 1910-1911. Bon. Et pour ce qui est de la loi, de toute façon, à partir du moment où la loi a reçu l'assentiment royal, on ne peut plus rien faire. Hein. La loi, elle est promulguée, donc elle doit être respectée.
C'est jamais arrivé dans l'histoire de la Grande-Bretagne qu'un Premier ministre n'applique pas une loi votée au Parlement.
Surtout promulgué par le promulgué par le souverain, parce qu'en fait ce qu'il faut bien voir c'est que l'exécutif à la base c'est la prérogative royale. Bon, ensuite la prérogative royale elle s'évite son contenu et le pouvoir exécutif est passé au Premier ministre, mais il n'y a aucun texte constitutionnel qui dit qu'il y a un Premier ministre. C'est une convention parlementaire qui date du XVIIIe siècle, donc le tout pouvoir exécutif en fait procède de la couronne. Et donc, à partir du moment où Elisabeth II a promulgué cette loi, donc Boris Johnson doit la respecter.
Thibaut Guilluy, vous vouliez réagir?
Le Premier ministre n'existe pas juridiquement, le gouvernement, oui, tout de même. Oui. Pour ça, un petit détail, ce que vous disiez d'ailleurs sur les débats de 1910, sur le Parliament Act, effectivement, c'est une continuité historique, parce que eux-mêmes, ces débats-là, rappelaient les débats sur le Reform Act, c'est-à-dire les moments où la démocratisation, au fond, de l'électorat, l'ouverture donc de l'électorat de la Chambre des communes, enfin pour les élections législatives, au peuple, pour le dire un peu naïvement. Effectivement, on avait eu des débats comme ça, où la Chambre des Lords avait joué en tant que tout son plein rôle de force conservatrice.
Faisons une hypothèse, Thibaut Guilluy, on en est un peu réduit à ça hein, quand on parle du Brexit depuis quelques mois. Faisons l'hypothèse que Boris Johnson n'applique pas le texte qui a été voté et donc d'ici 18 octobre, au lendemain 18 octobre, ne demande pas de report du Brexit à ses partenaires. Un tribunal lui ordonne de le faire. Il ne le fait pas. Il se retrouve en prison, qui est visiblement une chose tout à fait possible, qui a été évoquée notamment par Dominique Grieve, on le disait, conservateur mais exclu du parti depuis, qui est un ancien procureur général, donc il connaît à peu près la chose. Il se retrouve en prison. Qu'est-ce qui se passe? Comment on désigne le nouveau chef de l'exécutif? Comment on le remplace? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Un Premier ministre en prison?
Oui, de toute façon, on peut tout de même soupçonner, pour être un peu réaliste, qu'il aurait d'abord été sa responsabilité aurait été engagée, donc il ne serait plus Premier ministre. De toute façon, s'il va au coup de force, et c'est là une grande question, et c'est d'ailleurs le cœur même de la Constitution britannique telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire un régime parlementaire, la principale responsabilité du chef du gouvernement, elle n'est pas tant pénale que politique. Alors, évidemment, et ça c'est une des choses dont on aura l'occasion de discuter aujourd'hui, mais les raisons pour lesquelles le Parlement, la Chambre des communes, n'a pas voté la défiance, c'est-à-dire la censure du gouvernement Johnson, sont assez complexes et là, pour le coup, très politiques.
C'est-à-dire ?
Alors, il y a des arguments qui sont constitutionnels, à mes yeux en tout cas, à savoir, au fond, je pense que le Parlement, et le Parti travailliste comme le Parti conservateur, enfin ceux qui sont donc opposés à une sortie sans accord, se disent qu'il vaut mieux avoir Johnson au gouvernement avant l'échéance, c'est-à-dire le 31 octobre, pour mieux pouvoir le maîtriser, notamment grâce à l'adoption de cette loi qui le force à demander donc une extension du délai. Donc, c'est le premier argument. Après, évidemment, il y a des arguments plus politiques. Et je pense que le Parti travailliste est assez partagé sur ce point. La question a été assez débattue en interne. Ils ne sont surtout pas sûrs de gagner les élections et on n'est pas sûr d'avoir une élection, une majorité.
Ils pensent même plutôt le contraire. Quand on regarde les sondages, a priori, c'est plutôt
ça risque de donner ce qu'on appelle un gouvernement minoritaire. De toute façon, il n'y aurait pas de gros bloc qui se dégagerait.
Philippe Chassaigne.
Oui. En fait, oui, je pense que les députés qui sont en place, enfin, les membres de la Chambre des communes, bon, bien sûr, ils sont préoccupés, et c'est évident, de l'avenir de leur pays et tout, mais en même temps, ils sont aussi attachés à leur siège. Et donc, le résultat d'une élection anticipée étant absolument, pas impossible, mais très difficile à prévoir, je dirais, déjà, il y a vraiment une interrogation. Quel score réaliserait le parti du Brexit? Parce que bon, là, jusqu'à présent, le parti UKIP n'a jamais réalisé de bons scores aux élections législatives. Mmh. Mais la situation est tellement, inhabituelle qu'on ne peut pas véritablement prévoir. Et donc, ce serait peut-être cette dissolution, peut-être un saut dans l'inconnu. Tandis que là, bon, on connaît les rapports de force. On voit qui au sein du parti conservateur est pour la sortie sans accord, qui est pour une sortie avec accord, etc. Et donc, la situation. Mais c'est très compliqué, reste quand même assez, maîtrisable. Même si c'est difficile, elle reste maîtrisable. Tandis qu'une élection anticipée, qui serait déjà pas la première, bon, c'est quand même un signe, d'instabilité, de malaise institutionnel très marqué en Grande-Bretagne. Donc c'est vraiment un saut dans l'inconnu.
Poursuivons dans nos hypothèses, Thibaut Guilluy, depuis cette décision de suspension de Johnson, du Parlement par Boris Johnson, il y a un certain nombre de recours judiciaires. Il y en a un à Édimbourg, il y en a un à Londres. Alors justement, la semaine dernière, la Cour de justice écossaise a jugé illégale cette décision de Boris Johnson. Mais ce qu'on attend, c'est la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni qui va déposer son verdict demain. Est-ce que la Cour suprême peut considérer que cette décision, je ne sais pas s'il faut dire illégal, vous nous avez dit tout à l'heure, que c'était précisément légal, mais est-ce qu'elle peut décider de suspendre la suspension et de renvoyer tout le monde à Westminster? C'est possible, ça?
C'est terrible ce que vous me demandez, parce que vous me demandez de répondre à une question qui va être... je risque d'être contre-évident.
Il peut y avoir des signaux. Mouillez-vous.
Oui, je me mouille, mais c'est une opinion personnelle. Moi, je suis assez peu convaincu par le raisonnement de la Cour d'Écosse. Encore une fois, et c'est peut-être propre à mon biais de constitutionnaliste, le droit constitutionnel, c'est une matière un petit peu particulière, c'est une discipline un peu particulière, c'est un droit d'une nature un peu politique, dans lequel des questions de légitimité interviennent. Or, l'intervention d'un juge pour bloquer un processus qui demeure, qu'on le veuille ou non, politique, me semble pour le moins discutable.
D'accord.
Donc voilà, le raisonnement de la... Effectivement, il y a une juridiquement dans la décision de la Cour écossaise, de la Cour de session, au fond, une requalification des motifs de la prorogation de Johnson, en fait, voilà, ça n'était pas pour préparer le programme législatif, comme on le disait tout à l'heure. Le juge a dit, c'était effectivement pour empêcher le Parlement de s'exprimer. Ce qui est vrai politiquement, juridiquement, c'est plus complexe. C'est une grande question qui se pose dans tous les régimes politiques. Est-ce au juge de trancher ces questions-là?
Thibaut Guilluy, question, et puis ensuite on se tournera vers l'historien. C'est intéressant justement d'avoir ce double regard sur la question que je vais vous poser, qui est la suivante. Est-ce que on va pouvoir se remettre du Brexit sans rien toucher au système britannique, ou est-ce que, compte tenu du blocage politique et institutionnel que l'on voit là en ce moment, il faudra, quoi qu'il arrive, dans quelques années, tirer les leçons de tout ça et procéder à un certain nombre de transformations, peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas, mettre une constitution précisément écrite, codifiée en place, enfin que sais-je, est-ce qu'il y a des choses à tirer de cette expérience-là?
Là encore, c'est une question difficile. Écoutez, je n'en suis pas totalement convaincu. Ce qui se passe, c'est effectivement, pour un constitutionnaliste, un juriste assez... assez surprenant. On est habitué à voir dans la constitution anglaise, depuis Montesquieu qui l'admirait comme un modèle de séparation des pouvoirs, on a l'habitude de voir dans la constitution britannique donc un modèle de prudence politique. Évidemment, tout ça a un peu volé en éclats depuis quelques années, et ça c'est indéniable. Alors évidemment, c'est quelque chose qui est défendu par certains juristes, voire politiques, au Royaume-Uni, l'idée d'une constitution écrite. C'est une question complexe. Je répondrai juste en disant que l'écrit ne fournit pas de bonne solution à tout. Et par exemple, il y a un exemple très concret ici. Il y a quelque chose qui est intervenu et qui a encore une fois complexifié les données du problème politique. C'est l'adoption en 2011 de ce qu'on appelle le Fixed Term Parliament Act, qui est en fait une loi qui vient prévoir, rigidifier, écrire la procédure ou les procédures qui permettent de dissoudre le Parlement. Alors politiquement, c'était une concession faite par David Cameron, encore lui,
Encore lui, parce que c'est lui qui avait décidé du référendum, voilà. Non, je rappelle pour les auditeurs.
Effectivement, donc c'était une concession politique faite pour le Lib Dem, qui voulait donc empêcher que les gouvernements en place choisissent le moment où ils dissolvaient la Chambre pour des raisons, pour défendre leurs intérêts politiques. Donc voilà, ça a rigidifié la procédure, et en fait ça a rajouté des délais. Les fameux 14 jours après le vote d'une motion de censure viennent du Fixed Term Parliament Act. L'organisation de l'élection 25 jours après la dissolution vient du Parliament Act. Alors évidemment, il faut toujours une période pour organiser des élections. Mais voilà, l'écrit, ce que nous juristes appelons la rigidification des règles, parfois peut être source de problèmes.
Philippe Chassaigne, qu'en pense l'historien ? Est-ce que le Brexit va provoquer une rupture fondamentale dans l'organisation de la vie politique britannique ? Ou au fond, ce système est plus fort que cette crise-là et il restera ?
Alors tout d'abord, je précise que l'historien, c'est pas Madame Irma, donc il ne vit pas le futur dans les boules de cristal.
Non, mais il nous aide à comprendre le présent. Voilà. C'est son rôle.
Le système politique britannique, c'est un système qui est adaptable. Il est adaptable justement parce qu'il n'y a pas de constitution écrite. Alors l'idée d'une constitution écrite, elle a émergé dans les années 80. Il y avait un groupe d'intellectuels et d'universitaires qui s'appelait Charter 88. Donc la charte 88 qui considérait que 300 ans après la grosse révolution de 1688, il était temps il aurait été temps que la Grande-Bretagne se dote d'une constitution écrite. Cette thématique-là, elle a trouvé un écho réel au sein du Parti libéral-démocrate, d'où justement la concession de David Cameron et le Fixed Term Parliament Act. Mais comme justement le collègue vient de le dire, ça complexifie terriblement les choses. S'il n'avait pas fallu une majorité des deux tiers, Johnson pouvait provoquer une élection anticipée en claquant des doigts, hein, pour prendre l'expression anglaise, snap election, et puis on y aurait vu beaucoup plus clair. Donc je pense, à mon sens, cette capacité d'adaptation, cette adaptabilité du système politique britannique fait qu'une fois que la crise du Brexit sera passée, parce que forcément elle va passer, c'est au 1er janvier, ça va pas durer dans cette... cette situation ne peut pas continuer pendant des semestres et des semestres. Donc les choses se calmeront, et puis il y aura probablement des ajustements tirés de cette expérience institutionnelle inédite, mais je ne crois pas du tout à la rédaction d'une constitution. Par ailleurs, même si Napoléon Bonaparte disait qu'une constitution devait être courte et obscure, il faut quand même la rédiger. Et je crois que dans la situation actuelle du pays, et la situation qui sera la sienne lorsque la sortie de l'Union européenne sera réalisée, donc je crois que le Parlement aura autre chose à faire que de rédiger une constitution.
Philippe Chassaigne, je vais mettre à nouveau l'historien que vous êtes à l'épreuve. Si je vous demande de quand date au fond la démocratie britannique, jusqu'où est-ce qu'il faut remonter pour voir au fond la volonté du peuple s'imposer sur l'arbitraire royal, sur l'intérêt des notables?
Alors bon, c'est une vaste question, oui et non. Disons que quand on lit effectivement les lettres anglaises de Voltaire ou l'esprit de Montesquieu, on a l'impression que, bon, évidemment, ils vivaient dans une monarchie absolue. Et on a l'impression qu'outre-Manche, c'est la volonté du peuple qui domine. En fait, il faut pas oublier qu'au XVIIIe siècle, la classe ou le groupe social dominant, c'est l'aristocratie. L'aristocratie représentait directement à la Chambre des Lords et à la Chambre des Communes. Ce sont pas des aristocrates, puisque ce sont des non-nobles, mais ce sont les cadets, les cadets, donc non-titrés d'aristocrates, qui sont élus pour la plupart. À ce moment-là, ils sont élus d'ailleurs par une infime minorité de la population anglaise. Et ils sont élus en plus en utilisant largement la corruption. Enfin bon, les campagnes électorales jusqu'en 1867, c'est quand même assez folklorique. Hein. Les électeurs arrivent complètement bourrés, complètement ivres à la station, au local de vote, parce que ce sont les candidats qui leur donnent à boire jusqu'au moment ils vont signer leur nom sur le registre. Bon, donc ça c'est l'ancien système. 1832, il y a une première réforme du mode de scrutin qui élargit le droit de vote, mais ça reste encore une minorité. Et donc c'est la date à retenir, c'est vraiment 1867. Avec la loi, la deuxième réforme décidée par le gouvernement conservateur de Benjamin Disraeli et qui là donne le droit de vote aux classes moyennes et à ce qu'on appelait à l'époque l'aristocratie ouvrière, donc les ouvriers les mieux payés, les ouvriers qualifiés.
Vous n'avez pas ensuite, osé, 1804... Philippe Chassaigne, remonter jusqu'à 1669, à remonter jusqu'à la décapitation du roi Charles Ier.
Non, pas du tout. En fait, bon, le basculement entre le moment où le pouvoir du Parlement l'emporte celui de la couronne, c'est 1688, la Glorieuse Révolution. Mais ensuite, de 1688 à 1832, donc les pouvoirs de la couronne diminuent. Effectivement, il y a un cabinet qui se met en place, sans les ministres qui conseillent le souverain, mais au sein du cabinet, il y a un premier ministre qui émerge et qui est vraiment le détenteur du pouvoir exécutif. Mais si la démocratie, c'est le droit de vote, le suffrage universel ou quasi universel, masculin,
oui,
suffrage universel, voilà, c'est beaucoup plus proche de nous. C'est 1967, 1884.
Mais en revanche, la limitation des pouvoir du souverain, ces années-là, c'est 1669, c'est 1679, c'est ce moment-là. Enfin, c'est ce que j'ai lu dans votre livre, Philippe Chassaigne.
Hein. Non, c'est un tout petit peu avant. Non, c'est vraiment après 1688, la Glorieuse Révolution.
1679, l'habeas corpus qui met fin aux arrestations arbitraires. 1689, la déclaration des droits, le Bill of Rights qui limite le pouvoir du roi au profit du Parlement. Voilà. C'est ce moment-là quand même.
Oui, mais 1689, c'est la Grande Révolution. C'est Jacques II qui est remplacé par Guillaume III. Et ensuite, donc, il y a justement Guillaume III et sa femme Marie ne peuvent devenir souverains conjointement que s'ils approuvent cette déclaration des droits.
Thibaut Guilluy.
Oui, juste pas. Justement, 1688, c'est l'affirmation d'un principe qui va petit à petit devenir un principe juridique, qui est celui de la souveraineté du Parlement. Bon voilà, alors le Parlement étant entendu, il ne faut pas se méprendre, ça n'est pas le Parlement, la Chambre des communes et la Chambre des lords, le Parlement c'est ce qu'on appelle un organe complexe, composé donc des deux chambres de communes et lords, plus le monarque, la couronne, donc c'est la reine ou le roi en Parlement. C'est une des formules très qui nous paraissent, nous, républicains, assez archaïques. C'est une formule un peu de compromis, qui fait intervenir tous les pouvoirs. L'exécutif, alors évidemment derrière le monarque se cache très souvent le gouvernement aujourd'hui, et puis les deux chambres du Parlement. Donc voilà, c'est juste une petite précision. J'avais envie d'être presque un peu provocateur. Il reste à démontrer que le Royaume-Uni est une démocratie. Alors effectivement, comme l'a très bien dit Philippe Chassaigne, si on entend la démocratie comme l'extension du corps électoral, il s'est passé quelque chose au 19e siècle.
Pourquoi cette provocation ?
Mais parce que, alors là, je me mouille, vous allez voir, mais c'est ce que j'essaie par exemple d'expliquer à mes étudiants en première année de droit constitutionnel. Il y a peut-être mais ça nous amènera probablement sur le référendum, mais il y a peut-être une méprise. Nos systèmes sont avant tout des systèmes représentatifs. Qu'est-ce que la démocratie ? Comment combine-t-on la démocratie et les régimes représentatifs ? C'est une question complexe que probablement nos sociétés politiques n'ont pas totalement réussi à résoudre. Alors, certes, c'est ce dont on parle, il y a des éléments démocratiques dans une constitution dont, d'une certaine façon, on peut encore dire, comme on le disait il y a quelques siècles, que c'est une constitution mixte. Il y a des éléments, des forces politiques, des intérêts divergents, dont un principe démocratique qui s'exprime et qui est effectivement tout entier représenté par la Chambre des communes.
Vous nous rappelez, en quelques mots, Thibaut Guilluy, le rôle aujourd'hui de la Chambre des lords, justement ? À laquelle, d'ailleurs, effectivement, appartient la reine.
Oui.
Non, elle n'en est pas membre directement ?
Non.
Elle est hors du. Enfin, c'est le monarque en son parlement. C'est-à-dire que c'est son parlement, ce sont.
Ses pouvoirs ?
Alors, de la Chambre des Lords. Philippe Chassaigne l'a mentionné à propos du Parliament Act en 1910. Il y a eu une suite en 1949. On a progressivement restreint. Les pouvoirs d'opposition, de veto d'une chambre qu'on estime ne plus, qui représente effectivement une aristocratie, voire aujourd'hui une élitocratie, puisqu'on peut nommer plus facilement les pairs, mais de manière non héréditaire. Bon, son rôle est un peu effacé. Alors c'est un processus qui n'est pas totalement nouveau. Déjà à la fin du 19e siècle, on estimait que au fond la chambre des lords Lagarde était là pour être une chambre de réflexion, voire d'exercer ce que nous juristes appelons une forme de contrôle de constitutionnalité, c'est-à-dire qu'en refusant, en s'opposant à une loi, elle, au fond, interrogeait la majorité en place, et peut-être au-delà le peuple, sur le bien fondé, voire la constitutionnalité d'un texte. Alors, tout de même, et c'est quelque chose qu'on peut dire aussi du Sénat aujourd'hui, et notamment dans le processus Brexit, elle a joué un rôle assez important. Elle a beaucoup travaillé, notamment dans le marasme dans lequel s'est retrouvé le pays, d'un point de vue juridique.
Qu'est-ce qu'elle a apporté ?
Le rapport des commissions a été assez remarquable. Il y a un travail vraiment très sérieux sur le fond qui a été fait. Voilà, c'était les débats étaient assez de plutôt bon niveau.
Philippe Chassaigne, peut-être une réaction si vous souhaitez sur la Chambre des Lords, et puis je voudrais qu'on revienne un instant aussi avec vous sur l'histoire de cette montée en puissance de l'exécutif, parce que c'est vrai que, en tout cas, vu d'ici, de ce côté-là de la Manche, on a vraiment l'impression, et ce depuis des années, que l'exécutif britannique a beaucoup plus de poids que le Parlement dans le système britannique. Et la question que je me posais, c'est à quand ça remonte, dans la période récente en tout cas, disons depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quel moment ça vient ?
Cette
montée en puissance de l'exécutif.
Oui, la réponse est très simple, ça vient du gouvernement de Margaret Thatcher. Mais juste pour ajouter un mot sur la Chambre des Lords, effectivement, aujourd'hui, la Chambre des Lords, elle produit des rapports donc sur les grandes questions de société. Alors bon, ça peut être des choses à conséquences immédiates comme le Brexit, mais également d'autres, des questions de bioéthique, etc. Elles vont être traitées par la Chambre des Lords, voilà. Donc, je reviens à la question de ces rapports entre l'exécutif et le législatif. C'est très simple. En 1967, je crois, Harold Wilson, dans une interview assez célèbre, comparait le Premier ministre à une sorte de chef d'orchestre qui essaie de dégager, enfin harmoniser les politiques ou les opinions des différents membres du cabinet. Avec Margaret Thatcher, ça a complètement changé. Margaret Thatcher est devenue un Premier ministre au style présidentiel. Et l'autoritarisme de Margaret Thatcher, il s'est traduit aussi sur la façon dont le gouvernement est arrivé, parce que d'abord il disposait de larges majorités à la Chambre des Communes, à imposer sa volonté à la Chambre des Communes. Le Parti conservateur est en quelque sorte aux ordres. Margaret Thatcher est restée Premier ministre de 1979 à 1990, 11 ans. Après elle, son successeur John Major, conservateur aussi, 7 ans. Tony Blair est resté Premier ministre 97-2007, 10 ans. Donc on a un allongement de la durée des mandats des Premiers ministres. Et du coup, ça renforçait en quelque sorte leur dérive, dirait-on, présidentielle ou présidentialiste.
Et c'est à ce moment-là... Donc c'est pas une question de personnalité, au fond. Vous dites c'est Thatcher. C'est pas seulement ça. C'est aussi un allongement, justement, de la longévité de ces...
Ce sont les deux choses, parce que Margaret Thatcher et Tony Blair étaient aussi autoritaires que Margaret Thatcher, mais d'une façon différente. On disait que Margaret Thatcher imposait sa volonté à coup de sac à main, et de Tony Blair, on disait que c'était control freak, qu'il avait la manie du contrôle, un obsédé du contrôle. Et donc, il ne voulait absolument céder aucun pouce de leur pouvoir. Et là, donc, en 79-80, il y a vraiment une rupture dans les rapports entre l'exécutif et le législatif, et une prédominance d'un exécutif de plus en plus comparé, d'ailleurs, à un pouvoir présidentiel à l'Amérique.
Thibaut Guilluy, avant de parler de l'Écosse.
Oui,
sur cette montée en puissance de l'exécutif dans la deuxième partie du XXe siècle.
Oui, on parle, mais même avant, on commençait à parler d'une dictature du Premier ministre. Alors évidemment, du point de vue constitutionnel, ça accompagne, et c'est pas très nouveau, un phénomène qui est, en France on appelle ça le fait majoritaire, c'est-à-dire un renforcement, une consolidation des majorités qui, de manière un peu ambiguë, renforce le Parlement, le gouvernement. Si vous voulez, plus vous avez des majorités cohérentes, moins, d'une certaine manière, elles exercent, c'est un peu exagéré de le dire à propos du modèle anglais, qui quand même, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, était un modèle de contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. Mais bon, effectivement, il y a une baisse des prérogatives, de l'exercice par le Parlement de ces prérogatives-là.
On est avec vous, Thibaut Guilluy et Philippe Chassaigne, dans cette série consacrée au Parlement à la renverse. Aujourd'hui, Westminster, les fondements du parlementarisme à l'épreuve. On va prendre la direction de l'Écosse.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Oui, je le disais, la Cour de justice écossaise a jugé illégale la décision de Boris Johnson de suspendre le Parlement de Westminster, même s'il faudra attendre la décision finale de la Cour suprême du Royaume-Uni qui va déposer son verdict demain. Mais quoi qu'il en soit, cette poursuite en justice marque l'indépendance très forte du système écossais par rapport au système britannique. En effet, si les parlements du Royaume d'Écosse et du Royaume d'Angleterre avaient fusionné pour former le Royaume de Grande-Bretagne selon les termes de l'acte de l'Union de 1707, l'Écosse n'a plus eu de Parlement pendant presque 3 siècles jusqu'à ce que, en 1999, à la suite d'un référendum, un nouveau parlement écossais voit le jour avec de nouveaux pouvoirs auparavant dévolus à Westminster. Souvenez-vous.
Notre responsabilité désormais est considérable. Nous devons nous assurer que ce parlement travaillera pour l'Écosse, qu'il renforcera la confiance du peuple d'Écosse et mènera notre pays à la liberté et l'indépendance.
Voilà, on attendait la voix d'Alex Salmond, qui était à l'époque le président du SNP, le Parti National Écossais, lors de l'inauguration donc de ce Parlement, avec là le chant qu'il y avait eu lors de la session d'ouverture. Bonjour Edwige Campietrin.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de civilisation britannique à l'Université de Valenciennes. Pendant plus de 290 ans, les Écossais n'avaient plus de Parlement. Pourquoi à un moment, il y a 20 ans, les Écossais ont ressenti ce besoin de retrouver leur propre Parlement ?
Alors, il y a probablement deux raisons. La première, c'est la montée en puissance du Scottish National Party, un parti indépendantiste qui a fait son entrée à la Chambre des communes à partir des années 60. Et donc, il préconisait l'accession de l'Écosse à l'indépendance. Et en retour, les deux grands partis de l'époque, conservateurs et travaillistes, évidemment jugeaient cet objectif inacceptable, mais ils se devaient d'offrir une réponse sur le terrain constitutionnel. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir à un projet de dévolution, donc une forme avancée de décentralisation qui permettrait d'accorder une certaine autonomie à l'Écosse sans aller jusqu'à l'indépendance. Et puis il y a une deuxième raison importante, c'est l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher et donc l'exercice du pouvoir par les conservateurs de 1979 à 1997 pour mettre en place des politiques néolibérales qui n'étaient pas du tout du goût des Écossais, donc qui ont commencé, qui ont voté, qui sont mis à voter travailliste dans des proportions croissantes. Et donc c'est le Parti travailliste dans l'opposition ainsi que les libéraux démocrates qui ont mis en place une convention constitutionnelle pour élaborer un nouveau projet, et cette fois un projet avec une finalité très claire, s'opposer aux politiques néolibérales menées par le gouvernement britannique.
Il y a quand même un paradoxe là qui apparaît. Edwige Campietrin, c'est qu'en réalité, vous le disiez, c'est le Scottish National Party qui a porté cette ambition d'un retour d'un Parlement d'Écosse, sauf que dans le paysage politique écossais, il n'était absolument pas majoritaire. Ce n'est que bien plus tard, en 2007, qu'il devient le premier parti d'Écosse et qu'il prend la tête du gouvernement régional. Donc comment comprendre qu'ils arrivent à porter cette ambition-là et à tordre le bras d'une certaine manière aux deux partis qui, en réalité, domine le paysage politique écossais.
En fait, comment dire, le SNP, les dirigeants du SNP préconisaient vraiment l'indépendance, l'accession de l'Écosse à l'indépendance, la création d'un nouvel État. Mais un certain nombre de membres du parti ont rapidement compris qu'il fallait accepter la dévolution à titre de compromis. Et que peut-être il y avait une deuxième voie vers l'indépendance, c'est-à-dire il fallait laisser le Parlement écossais voir le jour, de manière à ensuite pouvoir se présenter aux élections au Parlement écossais et devenir majoritaire par l'intermédiaire du Parlement écossais.
On va aborder dans un instant la question d'un nouveau référendum possible sur l'Écosse, mais il y a aussi une autre question sur laquelle je voudrais que vous nous éclairiez un tout petit peu avant de poursuivre. C'est que aujourd'hui, le Scottish National Party revendique son attachement extrêmement fort à l'Europe. Comment est-ce qu'on peut être à la fois à ce point pro-européen et nationaliste, sachant que c'est pas une évidence, hein, le SNP n'a pas toujours été aussi pro-européen.
Non, lors du référendum de 1975, il appelait à voter.
Il a fait campagne contre.
Oui. Mais bon, le SNP pragmatique a rapidement changé d'avis au vu des résultats du référendum de 1975. Et de toute façon, en 1975, ce n'était pas un non à l'Europe en tant que telle, c'était un non à la CEE et surtout aux conditions d'adhésion qui avaient été négociées par le gouvernement britannique. Le SNP estimait qu'elle privilégiait les intérêts anglais. Donc en fait, comment peut-on être aujourd'hui nationaliste et pro-européen parce que le SNP défend une conception ouverte du nationalisme, donc ouverte ouverte sur le monde, ça c'est vraiment un mot d'ordre, ouverte à l'immigration, ouverte aux autres pays. Le SNP ne voit pas son nationalisme comme un nationalisme de repli sur des frontières écossaises. Au contraire, pour les dirigeants du SNP, c'est le Brexit qui va replier l'Angleterre sur elle-même, et donc ils ne veulent pas du tout être prisonniers de ce genre de choses. Ils veulent s'ouvrir au monde.
Alors je rappelle, en 2014, l'Écosse vit un référendum sur l'indépendance qui se solde par la victoire du non, 55,3% contre 44,7%, mais à l'époque, il n'y avait pas eu le Brexit, justement. La Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a dit très clairement qu'elle souhaitait, elle, une nouvelle consultation sur l'indépendance. Il y a d'ailleurs un projet de loi qui va bientôt être présenté en ce sens au Parlement écossais. Est-ce que vous pensez que cette fois, l'Écosse pourrait décider de larguer les amarres et reprendre son indépendance?
Alors, il y a plusieurs obstacles. Le premier est d'ordre juridique, puisque Nicola Sturgeon va présenter un projet de loi sur l'organisation des référendums en général. Mais elle n'a toujours pas le droit, en tant que chef du gouvernement écossais, d'organiser un référendum d'autodétermination. En 2014, pour que le référendum soit possible...
Il a fallu l'autorisation de Londres.
Un accord entre les gouvernements britanniques et écossais avait été nécessaire, un accord signé en 2012. Donc, en l'état, et c'était un accord qui était valable pour un seul référendum. Donc, les premiers ministres depuis 2016, donc Theresa May et Boris Johnson, ont opposé une fin de non-recevoir. La question est considérée comme ayant été réglée de leur point de vue en 2014. Donc, premier problème juridique. Deuxième problème politique, les Écossais eux-mêmes ne veulent pas vraiment de ce référendum, mais surtout les sondages montrent que l'opinion publique n'a pas évolué depuis 2014, c'est-à-dire que environ 45% de personnes, 45, 46, 47, seraient prêtes à voter en faveur de l'indépendance, et ce n'est pas suffisant pour organiser un référendum d'autodétermination. Et troisième problème économique, parce que la situation économique aujourd'hui est bien différente. Alors, évidemment, le Brexit se profile, mais même sans le Brexit, les cours du pétrole se sont effondrés. Le SNP ne peut plus fonder son projet sur le pétrole. Et il faut répondre aussi aux incertitudes qui avaient vu le jour pendant la campagne de 2014, notamment sur la question de la monnaie, etc. Donc il y a un grand nombre d'incertitudes, en fait.
Vous nous expliquez, Élise Campietrin, les positionnement du Parti travailliste et des conservateurs sur la question de la perspective d'un nouveau référendum. Tout le monde est opposé. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est les conservateurs et les travaillistes.
Les libéraux-démocrates sont opposés, mais très très fermement opposés, vraiment sur une ligne unioniste très ferme. Il y a eu un référendum, les Écossais se sont exprimés, il n'est pas question de multiplier les consultations.
Sachant qu'ils
Le seul parti sur lequel le SNP peut compter, c'est le petit parti vert, mais qui est vraiment...
Donc ça suffit pas.
Non.
Vous restez avec nous, je voudrais faire réagir nos deux invités, Thibaut Guiluy et Philippe Chassaigne, sur cette délicate question écossaise. Philippe Chassaigne?
Oui, de toute façon, s'il y avait un deuxième référendum en Écosse, pourquoi pas un deuxième référendum sur le Brexit? Et la question, un des problèmes, c'est que Edwige Klemp évoquait il y a un instant, c'est qu'en fait, on n'est absolument pas certain que les résultats changeraient par rapport au premier référendum. Là ensuite, on va faire quoi? Il s'appelait toujours pas à faire un troisième référendum. Dans ces cas-là, on n'en sort plus. C'est fin de référendum tous les deux mois ou tous les six mois. Donc ça, c'est extrêmement délicat comme prise de position initiale. Bon, le résultat ne plaisait pas évidemment à Nicola Sturgeon en 2014. Ah bon, on va faire un nouveau référendum. Oui, mais c'est toujours 53, 47.
Il n'y avait pas le Brexit à l'époque. Il n'y avait pas le Brexit, et donc la perspective de sortir de l'Union européenne, quand même.
Les enquêtes d'opinion montrent que finalement la population écossaise reste quand même assez partagée sur la question de larguer les amarres et de l'indépendance.
Thibaut Guiluy.
Oui, c'est d'autant plus amusant qu'effectivement la question des deux référendums, de la succession des référendums, a poussé si je ne me trompe pas, je ne dis pas de bêtises, les membres du SNP à refuser l'éventualité d'un deuxième référendum sur le Brexit. Puisque il se disait que si le jour arriverait éventuellement un nouvel référendum sur l'indépendance,
ça torpillerait leur possibilité
d'un référendum. Non, mais surtout, ça le rendrait précaire, c'est-à-dire qu'on pourrait toujours organiser un deuxième référendum derrière. Donc ils ont pensé effectivement à long terme. Alors oui, effectivement, la question juridiquement, elle est complexe. Madame l'a très bien expliqué, c'est-à-dire que il faut une loi du Parlement britannique pour organiser une consultation référendaire dont le statut est un petit peu bâtard entre guillemets juridiquement. Un référendum n'a pas force de loi proprement dit. Enfin, c'est un peu discutable, mais voilà. Donc effectivement, il faut un accord du Parlement britannique. Alors, si on veut raisonner juridiquement, même s'il n'y a pas un droit au référendum, on pourrait éventuellement soutenir qu'effectivement, c'est ce que vous laissez entendre, en France, en droit français, en droit constitutionnel français, on parlerait d'un changement de circonstances de fait et de droit, d'ailleurs. Effectivement, il y a eu un événement majeur d'une dimension constitutionnelle, constituante même, qui est intervenu entre les deux. Mais de toute façon, effectivement, le souverain doit y consentir, le Parlement doit y consentir.
Edwidge Campietra, on arrive presque au terme de cette émission. Dernière réaction ?
Oui, je voulais simplement préciser que le SNP a changé d'avis sur l'organisation d'un second référendum sur le Brexit. Donc, depuis quelques mois, le SNP est favorable
à l'idée d'un nouveau référendum.
Un second référendum. Mais justement, pour pouvoir entrer dans le jeu britannique et affirmer haut et fort que le SNP est certes un parti indépendantiste, mais qu'il participe pleinement au jeu politique britannique et qu'il propose des solutions et qu'il est prêt à s'associer.
Oui, parti raisonnable. C'est un parti raisonnable. Philippe Chassaigne, toute dernière intervention.
Bah, je crois que on a tendance à ne pas bien comprendre en France, c'est que le gouvernement britannique et le gouvernement écossais ne sont pas sur un pied d'égalité. La dévolution, comme le disait Edwidge Camp, c'est une décentralisation avancée. Et Nicola Sturgeon, elle n'est pas premier ministre écossais, elle est first minister, donc première des ministres écossaises. Donc quand même une position de subordination du gouvernement écossais, qui d'ailleurs n'a pas compétence sur l'ensemble des domaines de l'Écosse. Hein. Donc voilà, ça, on a tendance parfois à l'oublier depuis la France.
Spiders do the fly no harm. When the blackbird leaves to sing, and likewise serpents for to sting. And what is worse is turned to best, when crabs with swallows build their nests. When little bees shell castles bear, and fly so with them through the air. They say I'm not till then. The world is full of honest men. You may say I'm just me too. The old world now is turned to new.
Merci beaucoup à nos trois invités. Edwidge Campietrin qui est avec nous par téléphone, dont je rappellerai l'ouvrage L'Écosse et la tentation de l'indépendance, le référendum d'autodétermination de 2014 qui était paru chez Septentrion. Un grand merci à vous, Thibaut Guilluy, nous avoir accompagné, nous avoir éclairé sur cette crise du parlementarisme britannique. On s'intéressera demain à l'Espagne. Je remercie également Philippe Chassaigne qui était avec nous en duplex de Bordeaux. Je remercie également d'ailleurs les techniciens qui ont permis de faire la liaison jusqu'à nous. Et je rappellerai Histoire de l'Angleterre, des origines à nos jours, qui était paru chez Flammarion. 11h presque 53 minutes, c'est l'heure de retrouver Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et on continue sur la question de la démocratie, mais du côté de l'Inde. La victoire de Narendra Modi aux élections d'avril-mai dernier a fait basculer la plus grande démocratie du monde dans une nouvelle ère politique, Brice.
Oui, la quatrième depuis l'accession de l'Inde à l'indépendance en 1947, c'est en tout cas ce qu'écrivent les auteurs d'une étude très documentée, publiée par le think tank américain Carnegie Endowment, qui s'appelle Milan Vaishnav et Jamie Hinston. Certes, le BJP, le parti de Modi, avait déjà gagné les précédentes élections en 2014, mais la plupart des observateurs politiques prédisaient encore au début de cette année qu'il avait très peu de chances de retrouver une majorité absolue à la Chambre des députés indienne, le Lok Sabha. Et pourtant, Modi et son parti, le BJP, et l'alliance qui l'anime, l'Alliance nationale démocratique, ont encore amélioré leur score. Ils contrôlent 353 sièges sur 543 contre 336 seulement en 2014. En fait, le BJP, avec seulement 37% des suffrages, détient à lui seul la majorité des sièges. Et surtout, la carte électorale de l'Union indienne montre que le BJP a gagné dans la plupart des États, y compris sur cette bordure orientale de l'Inde qui lui avait résisté aux élections précédentes. En outre, les innombrables partis d'opposition qui animent la vie politique indienne avaient médité les leçons de 2014. Arrivant alors en ordre dispersé aux élections, la plupart avaient été marginalisés. Cette fois, ils ont formé, face à la puissante machine électorale du IJP, des coalitions assez solides, sans tenir compte de leurs divergences idéologiques. Eh bien, ça a été sans grand résultat. Comme le parti du Congrès, lors de la première phase de l'indépendance, le BJP est ainsi devenu le pivot central de la vie politique de l'Inde. Durant des décennies, écrivent les auteurs, l'électorat indien s'était divisé en deux. Environ la moitié votait pour les deux grands partis de gouvernement, le parti du Congrès et le BJP, et l'autre moitié pour des partis régionaux ou par des partis représentant les intérêts particuliers de certaines castes. Cette seconde moitié représentait encore 52% de l'électorat en 2009, mais seulement 48% en 2014 et plus que 43% cette année. Et c'est le BJP qui assèche progressivement à son profit cet électorat autrefois déterminé par des questions locales.
Mais alors Brice, comment ces auteurs expliquent-ils cette improbable victoire ?
Parce que le BJP se présente comme le parti nationaliste. Or, il est devenu, de plus en plus ouvertement, un parti ethno-nationaliste. Comme l'écrit Shashi Tharoor, l'ancien secrétaire d'État aux affaires étrangères de l'Inde, « Durant 3000 ans, l'Inde a été le refuge des personnes persécutées de toutes les nations et de toutes les croyances. Aujourd'hui, elle rejette les réfugiés Rohingyas qui fuient la Birmanie et elle publie un registre national des citoyens qui exclut des millions de musulmans arrivés en Inde en tant que réfugiés après 1971, et même leurs enfants nés en Inde. » Fin de citation. Les habitants de l'État de Jammu et Cachemire, un des États de l'Union indienne dont la majorité de la population est de confession musulmane, bénéficiaient d'un statut d'autonomie spéciale, protégé par un article spécial de la Constitution indienne. Eh bien, au prétexte de lutter contre la rébellion séparatiste qui y sévit, Modi a suspendu ce régime spécial, coupé cette région du monde durant plusieurs jours et a annoncé que New Delhi prenait directement en main l'administration du Jammu et Cachemire. Bien des commentateurs, comme ce Shashi Tharoor, qui appartient, il faut le dire, au parti du Congrès, redoutent l'instauration dans la plus grande démocratie du monde d'un régime autoritaire. Tharoor évoque l'abrogation de la coutume consistant pour le parti au pouvoir à New Delhi d'abandonner à l'opposition la présidence de la Commission des affaires étrangères. Il accuse en outre le gouvernement Modi d'avoir politisé un certain nombre d'institutions d'État en y plaçant ses fidèles et de citer ainsi l'administration des impôts, l'agence chargée des enquêtes financières et les services indiens du renseignement. Il redoute, dit-il, que ces institutions soient utilisées pour faire taire les opposants à Modi. Narendra Modi demeure cependant extrêmement populaire en Inde. Un tiers des électeurs du BJP justifient leur choix par son existence. La majorité des Indiens lui reconnaissent sa grande fermeté dans la défense des intérêts du pays. Il continue à jouir d'une réputation d'incorruptibilité malgré le relatif fiasco de l'opération qu'il a lancée autrefois et qui a consisté à retirer du jour au lendemain, figurez-vous, les billets de 500 et 1000 roupies pour mieux contrôler les mouvements d'argent échappant à toute taxation. C'était quand même 86% de tout l'argent circulant en Inde qui avait été retiré d'un coup. La machine BJP sous la direction du président Amit Shah est bien huilée. Elle est très à l'aise avec les outils numériques qu'elle maîtrise mieux que le parti du Congrès. Et surtout, le parti s'est doté d'une capacité à récolter des soutiens financiers dans l'immense pays. Le plus étonnant, c'est que ses électeurs ne semblent pas tenir rigueur à Modi des échecs économiques de son gouvernement pourtant patents, ni de son incapacité à faire baisser significativement le fort taux de chômage.
Merci beaucoup Brice Couturier. On vous retrouve évidemment pour une nouvelle chronique. Dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.